Il est 16h.
Et que je me retrouve au milieu de plein d'autres personnes. Quand je vais au spectacle et que je ne connais pas mes voisins ou les personnes qui m'entourent, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui nous réunit et qui nous met en partage de quelque chose qu'on est en train enfin, qu'on est prêt à aller à voir. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, le moment où on est là, on rentre dans la salle. Voilà, les lumières sont encore de la salle sont encore allumées, les gens se parlent entre eux, etc., etc. Alors que il y a rien qui dit que le spectacle va commencer et il y a une forme de silence qui se met en place, qui vient pas de quelque chose de, d'extérieur, c'est-à-dire les lumières restent encore allumées, mais c'est comme si il y avait une sorte de concentration de la salle qui fait que oups, le silence va se faire et après la lumière va s'éteindre, etc. Et donc il y a vraiment quelque chose qui fait que on va être à un moment ensemble pour regarder une même chose et notre perception de cette chose va être totalement différente. Et c'est ça qui est intéressant.
Tous les mercredis de juin à 16h dans l'émission Quoi de neuf sur Radio Campus Lille, vous avez rendez-vous avec le festival Latitude Contemporaine avec pour cette édition 2025 sur le pont Ami, Lisa, Noah et Emeraude. Alors bonne écoute sur le 106,6 FM ou campuslille.com.
Bonjour à toutes et à tous les festivaliers, bienvenue dans l'émission qui relate le festival Latitude Contemporaine. Vous avez entendu Maria Carmela, la directrice du festival Latitude Contemporaine, et son avis est effectivement pertinent parce que le public est assez diversifié et assez silencieux, effectivement, il y a une sorte d'ambiance qui s'installe. Bon, tout de suite, la présentation de l'équipe par Elisa.
Bonjour à tous, vous venez d'entendre Emeraude qui co-animera cette émission aujourd'hui avec nous. Avec, à nos côtés, nous avons Noah.
Bonjour.
Et Amy à la
Bonjour.
Régie. Voilà, pour cette émission.
Et tout de suite, sans plus tarder, l'introspection par Noah.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'introspection. Aujourd'hui, dans cette deuxième émission, nous allons vous parler de l'image des femmes dans l'art contemporain et en particulier de l'évolution de la représentation des femmes à travers les siècles. L'image des femmes a considérablement évolué, tant dans leur représentation que dans les rôles qui leur sont attribués. Les femmes ont d'abord été représentées comme des muses et des symboles, alors qu'aujourd'hui, elles deviennent des créatrices à part entière. Alors je vous propose de voyager dans le temps pour mieux comprendre cette évolution. Commençons notre voyage au paléolithique supérieur, c'est-à-dire entre 40 000 et 12 000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, les femmes sont représentées par des statuettes appelées Vénus. Ces statuettes sont le reflet des canons de beauté et symbolisent la fertilité. La Vénus de Willendorf est une des plus célèbres Vénus et serait âgée de près de 30 000 ans. Parlons désormais de l'Égypte antique. À cette époque, les femmes ont des rôles divers dans la société, ce qui est alors très progressiste. On retrouve cette égalité dans l'art. Les femmes prennent souvent des figures de déesses et elles apparaissent plus actives dans les scènes décrites. Maintenant, parlons de la Grèce antique. Les représentations des femmes y sont multiples et représentent souvent des déesses. La victoire de Samothrace est une représentation de la déesse de la victoire. Cette œuvre est très célèbre et attire chaque année de nombreux visiteurs au Louvre. La Vénus de Milo est tout aussi connue. Elle représente la déesse grecque Aphrodite. Les œuvres de la Grèce antique valorisent un idéal de beauté. À cette même époque, l'image de l'homme est différente. Dans la Grèce antique, l'homme est décrit comme héroïque. Il se caractérise par une force athlétique impressionnante et est toujours actif. Alors, est-ce que les représentations ont ensuite évolué pendant la Rome antique ? En fait, pour les femmes, pas complètement, même si elles sont de plus en plus assimilées à des valeurs comme la fidélité ou la maternité. Les hommes, eux, sont toujours dépeints comme des héros, et leur représentation est de plus en plus politique, avec des représentations de bustes qui incarnent leur expérience, comme c'est le cas de Jules César. Au Moyen-Âge, l'art met le plus souvent en lumière des représentations de la Sainte Vierge et de la pureté. Les portraits se développent et les femmes sont généralement représentées très jeunes, avec des critères de beauté déjà très stricts et des positions presque toujours passives. Maintenant, arrêtons-nous à la Renaissance. La Renaissance marque un changement de l'image des femmes dans l'art. Les peintures de Sandro Botticelli, par exemple la naissance de Vénus, montrent une femme représentée avec beaucoup de sensualité. Les femmes sont encore très idéalisées avec les canons de beauté de l'époque. Les portraits de femmes nobles se sont développés pour faire le tour des salons à la recherche d'un mariage ou d'alliance. Au XVIIe siècle, les femmes sont petit à petit représentées avec des rôles différents. On peut citer par exemple la célèbre bohémienne de Franz Hals ou la peinture d'une laitière de Johannes Vermeer. Au XIXe siècle, les représentations des femmes génèrent beaucoup de scandales, avec les styles impressionnistes et réalistes qui dépeignent le nu dans des situations qui ne font pas forcément référence à la mythologie. Mais c'est vraiment au XXe siècle et au XXIe siècle que l'image des femmes change. Et c'est aussi grandement lié au fait que les femmes deviennent de plus en plus les artistes, et plus seulement les modèles. L'art contemporain, comme on en avait parlé la semaine dernière, cherche et réussit à s'émanciper des règles. Son objectif est de faire réagir sur le monde actuel. Ainsi, Judy Chicago dans The Dinner Party en 1979 est l'auteur d'une œuvre engagée qui rend hommage aux femmes oubliées de l'histoire. Avec l'art contemporain, les femmes dénoncent le male gaze, le regard masculin, qui a forgé beaucoup de stéréotypes. Cindy Sherman, dans Untitled Film Stills, dénonce d'ailleurs le conditionnement des rôles des femmes dans les médias, ce qui peut nous faire penser aux représentations des femmes dans l'art au gré des siècles. Mystique était une artiste de street art qui réalisait des silhouettes de femmes dans les rues de Paris avec des messages qui prônent la liberté. Elle faisait des jeux de mots, comme dans son graffiti « Les fleurs du mal », qui, vous l'avez deviné, fait référence aux fleurs du mal de Baudelaire, mais cette fois-ci, le mot mal s'écrit M-A-L-E. Ensuite, l'artiste Sonja Ivekovic dénonce dans sa série de photographies Sunglasses Woman's House les violences conjugales. Pour ce faire, elle crée un contraste entre des photographies de magazines en apparence classique, on voit des jeunes femmes mannequins avec des lunettes de soleil de luxe, quand on s'approche, on se rend compte qu'il y a sur chacune des couvertures un texte. Les textes sont en fait les histoires de femmes battues. Et c'est là que l'on comprend que l'artiste a voulu dénoncer l'invisibilisation des femmes victimes de violences conjugales en provoquant un choc entre le visuel et le message. L'image de l'homme a aussi évolué dans l'art contemporain. Des artistes comme Wolfgang Tillmans et David Vornarovic représentent les hommes différemment en les laissant notamment montrer leur sensibilité. L'art contemporain permet aussi d'explorer la représentation des genres, comme l'ont fait des artistes comme Frida Kahlo et Andy Warhol, ou comme le fait Zanel Muhly. Le festival Latitude Contemporaine permet aux artistes de s'exprimer en créant un espace de partage et de rencontre. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.
Merci beaucoup Noah pour cette introspection merveilleusement réalisée et d'autant plus qu'elle résonne vu que nous sommes une équipe totalement féminine et qu'on a vu la plupart des artistes du festival qui étaient la plupart des femmes. Donc c'était très très fort, merci beaucoup Noah. Et tout de suite la musique One Kiss de Dua Lipa.
I'm not.
Bonjour à tous.
Dès à présent, nous nous retrouvons pour parler de la soirée d'inauguration et tout de suite un petit extrait de la soirée.
Je suis Agnès Mateus.
Comme beaucoup, et ça a été dit, le matin, j'écoute ou je lis les nouvelles de ce qui se passe dans le monde et comme beaucoup, je me demande où il va. Cette édition 2025 sera une édition qui nous mettra à l'écoute des pulsations qui secouent la planète et des résistances qui s'organisent pour que notre humanité ne sombre pas dans l'irréparable. Qu'il s'agisse de conflits, d'injustices, de dérèglements climatiques, autant de sujets que les artistes vont traverser pendant cette édition, il nous faut nous préparer à affronter ces défis. Et je pense que à la fois le public, les artistes, mais les organisateurs de spectacles vivants et les acteurs culturels sont prêts à affronter ces défis. Il faudrait que je continue longuement cette liste de défis que nous allons devoir affronter, mais j'arrête ici la liste des défis de ce monde qui va à volo. Quoi, loin de moi le souhait de donner l'idée d'un festival qui serait le portrait d'une époque discursive. Et nous savons compter sur les artistes pour enchanter nos imaginaires. Je les en remercie. J'ai basé le récit de la programmation sur ce qui fait fête, justement. Et pour moi, une des conditions majeures d'une fête réussie, j'entends le bouchon, on y arrive. C'est le mot fête. La condition majeure d'une fête réussie, c'est les bouchons qui s'ouvrent et qu'on y mange bien. Il sera donc question de nourriture et de boissons comme élément important de la convivialité et du partage. On le sait, la nourriture joue un rôle fondamental dans nos interactions humaines et sociales et nous permettra aussi, au fil des spectacles, de découvrir des rituels et des célébrations de différentes cultures.
La soirée d'inauguration annonçait effectivement de la nourriture, de la bonne ambiance, mais aussi l'exposition de certains problèmes de société. Et Elisa va nous parler effectivement du premier spectacle, Patatas Fritas.
Donc, Patatas Fritas a été réalisé par Agnès Matteux et Kim Tarida ce jeudi 5 mai à Lille. Ça parle, c'est un troisième volet radical d'une trilogie sur la violence, Et Agnès et Kim, ils s'attaquent ici aux violences politiques à travers l'héritage du fascisme. En effet, l'Espagne a vécu 40 ans de fascisme et pour eux, c'est un sujet assez sensible. Et donc, on a une mise en scène vraiment très bien réalisée qui nous a été offerte ce jeudi. Et moi, personnellement, j'ai eu pas mal d'idées, d'imagination lorsque j'ai justement regardé cette pièce, ce spectacle. Parce que oui, c'en était un. C'était à la fois dénonciatif, mais à la fois attaquant. Enfin, vraiment, c'était fort. Au début, ça commence, on a un drapeau qui se présente à nous, un énorme drapeau qui fait l'ensemble de l'espace de la scène, avec des jeux de lumière. Agnès nous dit, après 15 minutes qu'on a observé ce drapeau, que c'était 15 minutes, certes, mais imaginez 40 ans avec ce drapeau. Alors moi, avant même qu'elle dit ça, moi, personnellement, j'ai interprété le fait, pas pour faire une transition en nous expliquant qu'on avait 40 ans de drapeau, mais pour justement qu'on comprenne ce drapeau. Parce qu'il y avait un jeu de lumière vraiment fabuleux qui se stoppait toutes les minutes. Et on pouvait voir que chaque symbole de ce drapeau, c'était significatif de chaque chose que l'Espagne a pu subir. Pardon. Le fait de dire qu'à un moment, elle s'arrête et elle fait « Mais vous savez, je n'ai rien à voir avec ce texte. » Mais ça, c'est pareil. C'est une autre interprétation que j'ai eue. C'est, je pense qu'elle ne dit pas ça pour nous sensibiliser en tant que public en disant « Je ne dis pas ça, je ne fais pas ces choses-là. » Parce que ça vient pas de moi, mais je pense que derrière, il y avait un message caché que, en disant des phrases telles que oui, le fascisme, machin, je suis pas pour, mais bon. Eh bien, derrière, elle veut juste dire que les gens en politique, ils font des choses, ils vont se dédouaner en disant que, en fait, au final, elle va les insulter, elle va les dénigrer. Elle fait ça parce que elle fait référence à tous ces suiveurs qui ont pas forcément, qui sont pas forcément d'accord, mais qui vont quand même faire les choses que, par intérêt. C'est comme un moment dans son spectacle, elle se présente à nous dans le public avec un déguisement d'aigle, un aigle faisant référence à ce symbole du drapeau de l'Espagne lors de ce fascisme fort présent. Et elle se met à distribuer des billets en demandant aux gens. Vous êtes pauvre ou pas? Vous êtes dans le public, dans le privé, machin. Moi, pareil. Genre, enfin, je sais pas vous, mais j'ai interprété ça de manière à ce que, ah, vous, je vais vous donner ça. Et en fait, en échange, les gens, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, mais en fait, c'est pas mal. Nous, on n'a pas, ils nous offrent. Et c'est comme ça que, sans s'en rendre compte, ils vont accepter ce fascisme, ces politiques extrêmes qui s'imposent face à nous sans vraiment nous laisser nous exprimer face à ça. Et voilà, elle veut vraiment montrer à travers son texte, à travers ce spectacle, que les individus aujourd'hui dans nos sociétés acceptent de nombreuses choses pour la tranquillité et la facilité. Et c'est comme ça que des dictateurs parviennent à rejoindre le pouvoir, quoi.
Exactement, et on l'a vu, comment est-ce qu'elle a exprimé justement sa colère sur scène à travers la destruction de la machine à laver, qui représentait justement quelque chose pour blanchir un peu, pour nettoyer un peu ce fascisme qui est justement sale. Et aussi les coups de feu. D'habitude, elle tire qu'un seul coup de feu, mais là, elle en a tiré trois, tellement les débats d'actualité sont hyper, hyper, hyper redondants sur justement tous ces problèmes qu'on a à l'international, aussi bien à l'international que en France. Et on a justement ressenti, en fait, toutes ces émotions. On a vraiment été submergé aussi par ses émotions. Je sais pas toi, Noah, qu'est-ce que t'en as pensé de Patatas Fritas?
Oui, c'est vrai que c'est un spectacle assez marquant, qui est vraiment d'actualité. Et il y avait vraiment une intensité dans sa façon de parler. Donc on comprenait vraiment son ressenti, en fait. Et tout le public, à la fin, était marqué, en fait, par cette intensité. Genre, vraiment, je retiens ce mot-là et je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous.
Et toi, Amy, qu'est-ce que t'en as pensé?
Je suis d'accord, Noah, c'était très intense. Et puis le drapeau, au début, il y avait du silence. Et je trouve que ce silence, avec le jeu de lumière, ça nous fait réfléchir. Et il y avait le bruit des ventilateurs derrière. Et moi, je sais peut-être pas ce qu'elle voulait nous faire passer. Mais moi, c'était comme une machine à laver, un tambour qui nous endoctrine et qui tourne en boucle. Et ça nous met directement dedans. Et après, le spectacle, il se déroule. Et elle ne fait jamais la même chose. À chaque fois, elle nous surprend. Elle sort les marionnettes de Franco et Marine Le Pen.
Oui.
Ensuite, elle arrive déguisée en aigle. Donc, ouais, surprenant aussi.
Très surprenant, effectivement.
Bah, c'est vrai que on peut dire que c'est un spectacle réussi, puisque les réactions attendues, comme nous l'a dit la semaine dernière Maria Carmela Mini, étaient que les gens disent à la fin.
Ah ouais, quand même.
Et franchement, ah ouais, quand même. Donc, très réussi. Très, très réussi.
Eh bien, les chers festivaliers, vous allez découvrir justement l'interview que l'on a effectuée d'Agnès Mathéus tout de suite.
Je suis Agnès Mathéus, j'habite près de Barcelone. Ça fait 3 années avant que j'habitais à Barcelone. Je fais du théâtre, mais je fais un type de théâtre qui mélange un peu d'autres choses. Chanter un peu, bouger, des choses physiques, des images, plastiques aussi. Parler avec le public, un peu de cabaret. Bon, j'étudie journalisme, ça fait, je sais pas, muchos años, très très longtemps. Et c'est pas, je travaille dans la scène, ça fait aussi très très longtemps. Cet spectacle-là, Patatas Fritas Falsas, c'est notre troisième spectacle, parce que je fais des spectacles avec mon copain, Kim Tarriva. Lui, il est plus artiste plastique, tu vois. Il fait beaucoup d'expositions, des sculptures, photos. Alors, c'est un mélange intéressant pour le moment. C'est pas.
Et pourquoi le nom Patatas Fritas?
Ah, mira, Patatas Fritas. Bon, l'histoire, c'est que nous, on choisit les titres de nos spectacles un peu avec des choses populaires, tu vois. Parce que l'intérieur, il s'appelle Rebota, Rebota, en tout cas, explota. Ça, en français, c'était ça rebondit, ça t'explote en pleine face. Mais c'est une phrase qu'ils disent les enfants en Espagne. Non, c'est comme pour retourner, tu m'insultes, tu me dis idiota, je dis Rebota, Rebota, en tout cas, explota. Quelque chose pour. Non. Et patatas fritas, c'est une chose que tout le monde connaît, les frites. Et c'est une chose très populaire. Tout le monde connaît. Et falsas, il y a quelque chose, je sais pas. On a choisi ce titre vraiment pour choisir quelque chose qui soit pas un peu d'humour, pourquoi pas, et aussi un peu une chose très populaire, tu vois. On parle de l'Espagne et patatas fritas en Espagne. Tout le monde connaît, tout le monde en mange. Et c'est quelque chose, ça remet, non? Ça te fait penser à quelque chose que tout le monde connaît. Alors, quand tu choisis un titre comme ça, tu rentres directement dans les gens, tu vois. Tout le monde connaît. Même si après tu parles du fascisme, comme dans ces cas-là, ou je sais, d'autre chose.
Est-ce que vous vous considérez comme une militante en dehors de la scène?
Vous
manifestez?
Moi, moi-même, oui. Bon, parce qu'on a choisi, c'est-à-dire avec Kim, on a fait ces trois spectacles qui. Dans lesquels on parle de la violence. On parle, le premier, de la violence policière, le deuxième, de violence faite aux femmes, de le féminicide, et après, ce troisième, de fascisme. C'est-à-dire, ce sont des sujets pas très légers. Mais c'est vrai que ça a à voir avec... Moi et Kim, on s'est connus dans une manifestation, ça fait très, très longtemps, ça fait 13 ans, non, 12 ans, et alors on s'est connus là, dans des assemblées, dans des réunions... Tu vois, notre vie, c'est un peu comme, oui, engagé politiquement, avec beaucoup, plein de choses dans notre quotidien. Et alors, bon, pour moi, la vie, c'est un peu comme ça, c'est agir un peu. Alors, si j'ai choisi travailler sur scène, pour moi, la scène, c'est un endroit public où je peux agir, tu vois. Je dis des choses sur scène que moi, je n'ose pas dire dans la vie quotidienne. Parce que c'est plus facile de les dire là, parce que tout le monde te regarde et personne ne dit rien, et peut crier tout le temps. Et... Alors pour moi, c'est une façon de vivre, tu vois. Nous, maintenant, ça fait 3 ans, on habite dans une communauté, dans un couvent, loin de Barcelone, avec beaucoup de gens, avec lesquels on partage un projet culturel. C'est une autre façon de vivre. C'est une élection personnelle, bien sûr, non? Je crois que personne n'est obligé à. Mais ma façon de voir la vie, c'est être là, non? Moi, je ne comprends pas les gens qui font rien pour son... Mais en même temps, si toi, tu essaies de changer tout le monde, c'est vraiment inabastable, tu vois, tu ne peux pas le faire. Alors, je crois qu'on doit choisir de petites choses qu'on peut faire, qu'on arrive à faire, sans stresser et sans être, non, avec l'angoisse de « Oh, je ne peux pas sauver le monde ». Non, 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 t'inquiète, tranquille. Tu fais ce que tu peux, mais je crois que l'être humain... On doit faire ça, mais ça, c'est ma vision de... C'est pour ça qu'on fait ce type de spectacle, tu vois. Mais en même temps, pour moi, je crois aussi que les gens qui font des spectacles beaux, hyper beaux, et qu'ils travaillent la beauté, par exemple, c'est aussi une façon politique de s'engager, tu vois. Il ne faut pas être engagé, ça veut dire crier « Ah, fais chier !» Non, il y a beaucoup de façons d'être engagé, non? Et aller au fond de l'histoire... C'est une façon d'être engagé avec, non?
Est-ce que vous trouvez que le sujet de l'extrême droite, il est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'auparavant?
Auparavant, quand?
Au moment du fascisme. Ou ça n'a pas changé?
Non, parce qu'on parle de fascisme aujourd'hui, dans cet spectacle-là, non? Une chose, c'est la dictature de Franco. Ça fait 50... Moi, j'avais 8 ans quand Franco il est mort. Et alors, ça fait 50 ans. Mais le fascisme aujourd'hui, il est dans la rue parce qu'on n'a pas de mémoire, tu vois. On oublie très vite. Et 50 ans, c'est rien, tu vois. Nos grands-pères, ils ont été dans la dictature. Non, ma mère, elle a vécu toute la dictature, en fait. Moi, j'avais 8 ans quand Franco il est mort. Ça fait pas très longtemps de tout ça. Et maintenant, l'extrême droite dans la rue, il paraît que c'est comme... non, c'est une autre fois, on la trouve ici. Et des comportements complètement brutaux, quotidiens, que tout le monde ose faire. C'est comme... Si, si, je trouve que c'est complètement d'actualité. Alors, on essaye de faire ça dans les spectacles, non, un peu de parallélisme entre la dictature Franco, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, non? Il y a Marine Le Pen, il y a plein de gens qui disent des choses complètement d'extrême droite dans la rue. Tu vas te manifester avec un drapeau de la Palestine, ils ne te laissent pas, et non. C'est comme un stock, ça, c'est pas de liberté d'expression, on dirait. Et c'est en France, c'est en Espagne, c'est un peu partout, malheureusement.
Comment vous avez fait pour mettre en scène un sujet aussi compliqué et aussi grave ?
Non, là, je sais. Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est compliqué, parce que c'est la première fois qu'on a essayé de se mettre à la place des, pas des victimes, sinon des responsables de cette situation. Parce qu'avec la violence policière, on avait des amis qui sont morts par la police à Barcelone, on se manifestait contre la police, on recevait les coups de la police. D'accord, on est dans la place de la victime, alors c'est un endroit d'où on, c'est plus facile, entre guillemets, je dis, hein, parler de comme la victime, non? Parce que oh, moi, je suis la victime et j'ai... Le deuxième, la violence faite aux femmes, bien sûr, je parle comme victime, bien sûr. Moi, je n'étais pas victime d'un féminicide, mais bien sûr, je suis victime d'un système patriarcal, blablabla. Mais cette fois-là, c'était comment ? Nous, on est des Européennes, classe moyenne, blanc, avec une famille, entre guillemets, normale. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la bonne parole, mais une famille qui peut nous soutenir en cas où. Européenne, de Barcelone, oui, Barcelone, à Kerouaï. Tu vois, alors, on a dit, il faut se mettre à la place des gens qui sont responsables que cette situation quotidienne existe. Alors, ça a été super difficile, parce qu'on a dû faire un gros travail de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, nous? Tu vois, qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on... Il faut bagarrer avec plein de choses quotidiennes. Alors, on y va ou on n'y va pas? On n'y va pas. Et alors, c'est la première fois qu'on s'est mise à la place des responsables de cette situation et ça n'était pas facile. Changer la tête en ça. Je ne sais pas si on a réussi, mais on essayait quand même.
Qu'est-ce qu'ils en pensent, les Espagnols, justement, du fascisme? Parce qu'en réalité, leur gouvernement actuel, il n'est pas de droite ou d'extrême droite.
Non, les gouvernements actuels en Espagne, les socialistes, c'est à gauche, gauche, non, droite, gauche, gauche, non, gauche. Et vraiment, c'est presque l'unique gouvernement... dans l'Europe. Et moi, je ne suis pas socialiste du tout, mais vraiment, je dois dire que moi, j'aime bastante ce type Pedro Sánchez, parce que je trouve qu'ils sont en train de résister là. Et je trouve qu'à niveau social, on fait des prières pour qu'ils restent, parce que vraiment, il y a une différence, une grande différence. Et en Espagne, on a fait que la première de ce spectacle-là, on a fait 20 jours dans le Théâtre National de Catalogne, dans le Théâtre National, et ça y est, on n'a pas joué une autre fois à l'Espagne, on a joué en France, que en France. Et alors, en Espagne, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, ils n'aiment pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de travail en Espagne.
La fin du spectacle, il y a la chanson Still Loving You, il me semble, de Scorpion. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson?
Pour la parole « time », c'est le temps, non? Qu'on parle du temps, c'est-à-dire parce que c'est vrai que les gens qui ont vécu la guerre civile, pas la dictature, parce que la guerre civile, ils sont presque tous morts pour question de temps, tu vois. Alors, ça arrive après dans le texte qui disent il faut attendre, parce que quand tous ces gens-là, ils sont morts, on va créer la mémoire, non? C'est question de temps. Et c'est vrai, ça. C'est comme tous les gens qui ont vécu l'Holocauste. Quand tous les gens, ces gens-là, ils sont morts, tu peux inventer ce que tu veux. Parce qu'il n'y aura personne qui a vécu directement dans ça. C'est pour ça que la mémoire, c'est autant important. Et en Espagne, il y a plein de gens qui disent déjà que la guerre civile, ça a été une guerre de côté. Tu vois? Et c'est pas vrai, ça. Et alors, mais tout le monde dit, ah oui, c'est vrai, parce que les vrais protagonistes de l'histoire, ils sont presque morts. Parce que le temps, il passe, et alors, les gens oublient. C'est pour ça qu'on a choisi Still Loving You, mais parce qu'on voulait chanter une chanson et on a choisi ça.
Et pour rebondir sur ce que vient de dire Agnès Mathéus, tout de suite, la musique Still Loving You de Scorpion.
Time, it needs time to win back your love again. I will be there, I will be there. Love, only love can bring. Try, baby, try to trust in my love again. I will be there, I will be there. Love, our love, shouldn't be thrown away. I will be there.
C'était Still Loving You de Scorpion. Il est 16h39, vous êtes toujours sur Radio Campus et maintenant on passe au débrief de Happy Hype. Les Wanch Wanch sont un collectif mouvant co-dirigé aujourd'hui par Karine Daoujin et Marius Barto. Depuis 2019, la compagnie a créé 3 pièces et une multitude de performances, toujours dans un processus horizontal de création. Emeraude, je te laisse la parole.
Alors, le spectacle Happy Hype a été vraiment... C'était formidable. Ils nous ont invités sur scène, on a pu danser avec eux. Ils avaient une énergie, quelque chose, une dynamique...
Très contagieuse.
Voilà.
C'était très contagieuse, leur énergie.
C'était merveilleux, vraiment. Et Amy, tu peux nous en dire un peu plus, vu que tu as vu le spectacle en entier.
Ouais. Donc, en fait, on arrive dans la salle et le collectif Wanch Wanch, ils sont déguisés en Wanch. Les Wanch, c'est des fées. C'est des fées malicieuses et qui exécutent une danse ambiguë et vorace. Et elles proposent aux spectateurs Is de les rejoindre s'ils le souhaitent pour danser ensemble. Nous, on était assis en arc de cercle autour des danseurs qui étaient autour de la scène, en fait. Il n'y avait pas vraiment de scène, c'était dans une salle. On était assis en arc de cercle et ils déambulaient autour de nous. Ils passaient dans les rangs. Ils nous regardaient vraiment. Et c'était un peu intimidant, des fois.
Oui.
On se demandait ce qu'ils allaient faire, s'ils allaient nous prendre à partie. Mais on sentait vraiment la cohésion de groupe. Et ils ont fait tomber leur déguisement au début du spectacle, une fois que tout le monde était assis. Et c'est là que Mula, la DJ, est rentrée en scène. Et c'était vraiment exceptionnel. Ils avaient une très très bonne playlist. Enfin, personnellement, j'ai adoré la playlist.
Oui, pareil, ils ont mis du Aya Nakamura, donc J'étais conquise. Et toi, Noah, qu'est-ce que t'en as pensé de Happy Hype ?
Je suis d'accord, il y avait beaucoup d'énergie, ça donnait envie de danser, donc c'était vraiment super.
Ok. Et bien, tout de suite, la musique...
Et je crois que les autres spectateurs étaient d'accord avec nous, parce qu'on a été les interroger à la fin du spectacle. On vous laisse avec leur réaction.
On est trop mimi. Et ben Astrid, mon prénom. Là, on vient de voir Wanch Wanch, le collectif Wanch Wanch pour Happy Hype. C'était vraiment incroyable. Enfin, vraiment. En fait, je savais que ça allait danser. Du coup, je me suis dit, ok, je me mets dans le fond. Comme ça, pendant tout le spectacle, j'étais en train de danser et tout. La playlist incroyable. J'ai kiffé. Et puis à la fin, danser tous ensemble, c'était vraiment, vraiment trop bien. Voilà, je passe un super moment.
Lise, bah c'était super. On a transpiré de bonheur. C'était super à voir. Trop bonne énergie.
Je m'appelle Moé. C'était incroyable. On est arrivé, on s'est dit oulala, c'est quoi ce traquenard ? Parce que on n'a pas vu de siège et on s'est mis assis et tout par terre. Et en fait, c'était fou. C'était fou. Vraiment une énergie de fou. Je sais pas quoi dire. C'était juste trop bien. Le fait de partager la scène avec les artistes, parce qu'il n'y a pas de quatrième mur, genre tout le monde se mélange un peu. C'est trop bien, quoi. C'est trop bien.
Ouais, c'était vraiment génial. On a été séduit par le thème médial au fashion. Vraiment, on a signé direct. Et vraiment, c'était trop chouette, là, la fin où on a tous dansé ensemble. C'était hyper cool. Et en plus, il y avait une super ambiance avec les danseurs, etc. On aurait aimé que le public soit un peu plus chaud. Et puis,
il se demandait ce qui se passait.
Il y a un peu le truc de c'est un spectacle. Est-ce qu'on doit faire du bruit? Est-ce qu'on doit pas faire du bruit? Mais non, c'était hyper chouette.
Ouais, ouais. Ça rappelait de ouf l'ambiance des battles. Voilà, qu'un mot à dire, Slay. Bravo. Slay.
Ah oui. Merci pour ce micro-trottoir qui a été réalisé par mes camarades et moi-même. Tout de suite, Courage to Change de Sia sur Radio Campus. Non existe, fanatisme non existe. I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, pardon me. When it falls, when it falls, sowing the seeds of love and hope, love and love. We don't have to stay stuck in the weeds.
C'était donc Courage to Change de Zia et tout de suite la chronique sur La fille et le dragon de Cobra Academy.
Vendredi dernier, on s'est rendu à la librairie La Franchie pour rencontrer l'artiste féministe Hazara d'Afghanistan, Cobra Academy, et la socio-anthropologue Nicole Lapierre. Cette rencontre était enregistrée pour faire un nouvel épisode du podcast tenu par la librairie La Franchie. Pour rapidement les présenter, Cobra Academy est réfugiée à Paris. Elle a dû fuir son pays après sa performance Armor en 2015. Lors du festival Latitude Contemporaine de l'année dernière, elle avait proposé une journée de marche collective afin d'honorer les routes qu'ont parcourues les femmes réfugiées depuis leur terre natale jusqu'à l'endroit où elles sont arrivées. Nicole Lapierre est directrice de recherche au CNRS. Elle s'intéresse aux relations entre les générations, les identités, les minorités et les mémoires collectives. La semaine dernière, elles nous ont présenté le livre qu'elles ont réalisé ensemble, qui s'appelle « La fille et le dragon ». Les dessins de Cobra Academy y sont mêlés au texte rédigé par Nicole Lapierre. Le récit débute un jour d'hiver 1989, à Massad, en Iran. Tout commence au bout d'une petite rue qui semble sans issue. Au fond, à droite, un étroit passage permet pourtant d'en sortir. Trouver une échappée pour que la vie ne soit pas une impasse. Tel est le fil de cette histoire. Cette histoire, c'est celle de Cobra, qui veut dire « grande » en afghan, qui est la sixième enfant d'une fratrie de 10. Elle naît les mains grandes ouvertes, ce qui est signe de bienfait pour la maisonnée. Sa famille a quitté l'Afghanistan pour fuir l'armée soviétique, les moudjahidines et les persécutions sunnites que les sunnites afghans infligent aux chiites Hazara. Cobra découvre très tôt un don pour le dessin. Contre une existence opprimée, à la fois par la domination patriarcale et le fanatisme religieux, ce dont la protège et la fortifie. Cobra entreprend une odyssée d'artiste armée de ses pinceaux et d'une volonté sans faille, avec une mission, tuer le dragon. Bon, je m'arrête ici pour le résumé du livre, car je n'ai pas envie de spoiler la lecture si vous vouliez vous procurer. Pour revenir sur quelques points de la rencontre, sur lesquels j'ai pu réfléchir après avoir lu le livre. Tout d'abord, la violence. Quand je vous ai raconté, les filles, ce que j'avais pensé de la lecture et ce qui m'avait marqué, je vous ai parlé des scènes de châtiment corporel et des scènes de viol. Ils sont décrits à la fois par des mots et des illustrations. J'ai trouvé que cette double narration augmentait l'impact encore. J'ai trouvé que ces passages étaient très forts, frappants et durs. Et je pense que je ne suis pas la seule. Lors de la rencontre, Swazi Courbet, qui animait la rencontre, qui fait partie de la librairie La Franchie, elle est revenue sur ces passages violents qui l'avaient elle aussi marqué. Mais au contraire, la dessinatrice, elle a expliqué qu'elle était étonnée qu'on trouve les livres violents parce que c'était pas le cas pour elle, enfin elle l'avait pas écrit dans cette optique. Un autre point qui m'a marqué, c'est la narration et le mix entre le dessin et le texte, parce que j'ai pas l'habitude de lire des livres comme ça. Donc, les deux autrices nous ont expliqué que le livre a mis 7 mois à voir le jour entre les allers-retours, où il fallait que Nicole Lapierre travaille à partir des témoignages enregistrés avec Cooper Academy et les illustrations que Cooper Academy devait réaliser. Donc l'illustration et le texte se renforcent, les mots décrivent et précisent les dessins, tandis que les dessins renforcent encore l'impact des mots. Le livre, il est écrit du point de vue interne, celui de Cooper Academy, à la troisième personne. Tous les personnages sont nommés par rapport à la relation qu'ils ont avec elle. Et ce n'est qu'après coup que je me suis rendu compte et que je vous ai fait la réflexion qu'en fait, il n'y avait aucun prénom dans le livre, sauf les personnes célèbres qui étaient citées, par exemple les peintres dont elle s'est inspirée. Donc si j'ai bien compris de ce qui est expliqué au début du livre, il s'agit des usages. Il est plus respectueux de nommer les adultes par leur relation de parenté, fils de ou fille de, père ou mère de, femme de. Pour résumer, j'ai aimé être plongée dans la vie de Cooper Academy. On la suit, on la voit évoluer, s'affirmer. Et d'autant plus parce que c'est une histoire qui commence dans les années 1990, dans un contexte, mais qui a une résonance très actuelle. Si je vous ai donné envie de le livre s'appelle La fille et le dragon. Pour ceux qui auraient envie d'écouter l'échange avec Cooper Academy et Nicole Lapierre, rendez-vous sur le podcast de la librairie Les Affranchis. L'épisode ne devrait pas tarder à sortir. Et on pourra aussi retrouver Cooper Academy et Nicole Lapierre à la fin du festival le 26 juin pour une lecture dessinée au Grand Sud.
Merci, c'était Amy qui présentait sa chronique sur La fille et le dragon. On passe tout de suite à Auréal résiste de Arnaldo Antunes.
Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho papão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa na fumaça de um rojão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não, não. É só ilusão, não, não, só pode ser ilusão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, múmia, zumbi, medo, depressão. Não, não, não. Não, 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 não. Trabalho escravo não existe, desmatamento não existe.
C'était donc la musique qui passait au tout début du spectacle manga interprété par Jessica Tekira et tout de suite le micro-trottoir du spectacle.
Je m'appelle Sophie.
Et c'est quoi votre ressenti après le festival?
Comme d'habitude, toujours hyper contente d'être immergée dans l'art et la création surtout. Enfin, ça prend vraiment tout l'espace et c'est vraiment hyper intéressant et important.
Je m'appelle Rémi Popéchi. Moi, j'étais sur le plateau, là, sur le côté. J'ai pas mal picolé pendant le spectacle parce qu'on a pas arrêté de me servir à boire. Non, non, outre ça, c'était très chouette. La proposition qui mélange à la fois un texte qui a l'air très poétique et une corporalité qui est très brute. Et je pense que ce mélange de ces matériaux-là, il permet justement de décaler et l'histoire et nos relations physiques.
C'est un rapport qui est différent selon si on est une femme ou selon si on est un homme.
Oui, bien sûr, parce que ça ne porte pas les mêmes messages, je pense. De toute façon, tous les corps sont politiques et tout est politique dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'une réflexion qu'on s'est faite du coup avec ma copine, c'était que... Après, moi, enfin, j'ai quand même un background très artistique, etc. C'est que moi, j'ai pas du tout vu son corps nu, en fait, comme on voit un corps nu. Mais c'est vrai que ça m'a étonnée de voir que des gens regardaient son sexe, par exemple. Après, on n'a pas tous la même perception, mais justement, c'est ça qui est intéressant.
Il n'y avait pas ce malaise qui a été évoqué?
Pas du tout. Mais justement, je pense que c'est ça qui est... Enfin, les performances, je pense que c'est important parce que ça confronte vraiment le public à l'artiste. Je pense qu'en fait, c'est bien de se confronter vraiment de cette manière-là, de bousculer un peu les gens, de les inviter à participer à des trucs où ils seraient restés tout comme ça. Et c'est comme pour moi, c'est comme un concert, quoi. C'est en fait l'énergie. Enfin, dans une performance, il y a l'énergie de l'artiste, et en fait, on attend aussi de l'énergie du public parce que en fait, c'est juste quelque chose qu'on donne et qu'on reçoit.
Je pense que oui, mais je pense que c'est aussi ça dépend de la sexualité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme gay, voir un corps de femme, je trouve ça beau. Mais absolument pas excitant, il n'y a pas de désir, pas le désir sexuel en tout cas. Donc moi je trouve ça magnifique ce que je vois. Mais ça reste une œuvre d'art, ça ne peut me toucher autant qu'une statue dans un musée. Sauf que là elle bouge donc c'est encore mieux.
Et du coup il n'y a pas eu ce petit malaise dont on a entendu parler en voyant Jessica à tout
coup? Non mais moi je travaille dans le milieu du spectacle donc je crois que j'ai l'habitude. Ça me... Non, c'est l'habitude mais aussi là ça me choque pas dans le sens où ça se voit que c'est un costume. En fait, je dirais qu'on parlerait de ça. Sa nudité, c'est un costume. Et comme c'est vraiment assumé comme un costume, ça marche. Donc ça me gêne pas.
Est-ce que pour vous, il y a eu un avant et un après dans le spectacle ou pas?
Je pense que j'avais quand même bien compris ce qu'elle a présenté. Après, je pense qu'il n'y a pas une question de forcément compréhension. C'est en fait, c'est tu le prends comme tu le ressens. C'est l'art, quoi. Il y a des choses peut-être qui vont peut-être me pousser à rechercher un petit peu ces références, donc qu'elle a cité. C'est vrai que l'art au Brésil, tout ce qui m'intéresse vachement, surtout la littérature, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Donc je pense que cool, après, ça va être de peut-être faire un petit peu plus de recherches et même regarder un peu plus son travail, surtout aussi le spectacle dont elle a parlé est là, quoi. Voilà.
C'est difficile comme question. Je pense qu'il y a un après sur l'histoire. Après, moi, j'adore le théâtre brésilien, j'en vois souvent, donc je trouve qu'il s'inscrit dans cette vibe de théâtre brésilien... qui traite la nudité, qui traite toujours des sujets extrêmement politiques et souvent de façon peu éthique.
C'était le micro-trottoir sur Manga. Il est 16h57 et maintenant on va passer un petit tour de table justement sur ce spectacle et nos réactions.
Alors pour ma part, Manga c'était vraiment impressionnant. C'est un spectacle que je pense que je n'oublierai jamais vraiment. Donc inoubliable. Et toi Noah?
Ben pareil, j'ai été surprise du début à la fin. Je trouve que c'était intéressant que Jessica Teixeira chante avec les musiciens parce que ça crée une ambiance. Et je trouve que la mise en scène, elle était aussi très intéressante avec une boule à facettes. C'était très poétique parce que ça faisait comme des étoiles. Donc c'était vraiment intéressant, ouais.
Et moi, pareil, je trouvais ça très intéressant. Et sa nudité, au final, je trouve que ça nous oblige à nous regarder, à nous mettre face à nous-mêmes, à faire face, enfin oui, juste à se regarder
face à soi-même.
Face à soi-même, ouais. Exactement, j'ai oublié les mots.
Mais
ce spectacle, c'était aussi une ode à la vie. J'ai retenu une citation, elle disait, quand on est en bonne santé, on se questionne sur comment on veut mourir, mais quand on est en mauvaise santé, on se demande et on cherche... comment mieux vivre. Et elle nous a dit, on n'a qu'une vie, mais plusieurs manières de la vivre. Et je trouve ça très inspirant.
Et quel message vous pensez qu'elle a voulu faire passer à travers son spectacle?
Mais surtout le rapport au corps, et que le corps n'a pas de normes, entre guillemets, il n'y a pas un cadre qui fixe un corps parfait. Le corps parfait n'existe pas. Et les corps, justement, qui sont dits hors des cases, hors des normes, ne devrait pas être source de moquerie ou source d'humiliation, source d'exposition, comme l'a été la personne qu'elle représentait sur scène, Manga.
Très bien. Bah, merci beaucoup pour vos retours. On va désormais passer aux infos pratiques et à l'agenda
menu de la semaine.
Émeraude, je te laisse la parole pour commencer.
Alors aujourd'hui, rien que ce soir, il y a à la condition publique à Roubaix à 20h, coup fatal, représentant